Il y a presque 100 ans, jour pour jour, naissait Miles Davis. Et j'ai pensé que c'était l'occasion de lui rendre hommage. Alors, il y a déjà eu beaucoup d'émissions qui ont été faites autour du centenaire de sa naissance. Et je me suis dit que sur Piano Jazz Concept, ce qui pourrait être sympa, un bel hommage qu'on pourrait lui faire, eh bien, c'est d'analyser l'une de ses compositions. Et l'une de ses compositions les plus emblématiques, eh bien, c'est Nardis. Nardis est un standard qui est très important. On va y revenir dans un petit moment. Donc, je me suis dit, voilà. C'était un peu, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire l'analyse de ce standard, et on en fera plein d'autres, mais là vraiment c'était une occasion en or. Alors un mot à propos de la genèse, donc je passe, hein, j'escamote tout ce qui est biographie de Miles Davis. Vous avez eu des émissions radiophoniques, je ne sais combien d'articles, de presse, de blogs, tout le monde va parler de sa vie, ce qui est très très bien. Moi je veux parler de son œuvre. Ce qui m'intéresse, c'est sa vie m'intéresse aussi un petit peu évidemment, mais surtout son œuvre, voilà. Donc l'histoire de Nardis, alors il y a plein de choses qui ont été dites autour de Nardis. Alors d'abord le titre, alors il y a plusieurs histoires, mais on raconte que ce serait une question qu'on aurait posée à Bill Evans en lui demandant s'il pouvait jouer tel ou tel morceau. Et Bill, on ne sait jamais, hein, c'est pour ça que je mets toujours le conditionnel, parce que ce type d'anecdote, parfois c'est apocryphe, ou ça a été des propos rapportés, déformés, on a plein de versions. Et là, Bill aurait répondu, je ne joue pas ce genre de choses, parce que je suis un artiste. Et en anglais, c'est « I don't play that kind of things, because I'm an artist. » Et « I'm an artist » aurait été un petit peu, en étant un peu mangé, « I'm an artist, I'm an artist, I'm an artist, et I'm an artist. » Voilà comment serait arrivé le mot Nardis, qui serait donc une déformation de artist. Bon, ça, voilà un petit peu pour l'origine du mot, de la composition de l'œuvre. Deuxième point dont il faut tout de suite parler, c'est les allégations de plagiat de Miles Davis par rapport à Bill Evans. Alors, pour le faire très court, on a dit, on a prétendu, on a affirmé pendant très longtemps, encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont persuadés que ça n'est pas Miles Davis qui a écrit Nardis, mais que c'est Bill Evans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là? On a plusieurs sources d'informations qui nous permettent de dire que c'est bien Miles Davis qui a écrit Nardis. Déjà, on a le témoignage direct de Bill Evans, qui a enregistré. Alors, c'est vrai qu'on associe, la raison pour laquelle on dit ça, je pense bien souvent, c'est qu'on associe Nardis à Bill Evans, parce qu'il l'a joué et enregistré tout au long de sa carrière, et c'était un des morceaux, surtout à la fin, les 10 dernières années de sa vie, qu'il jouait presque tout le temps, et il a des versions qui sont mais incroyables, quoi. Il en avait fait une de ses signatures, à telle enseigne que certains disaient, mais c'est vraiment l'un de ses thèmes, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme témoignage? Eh bien, on a Bill, lorsqu'il témoignait, enfin, lorsqu'il présentait précisément pendant ses concerts Nardis, quand il expliquait ce qu'il allait jouer, il le présentait systématiquement comme étant une composition de Miles Davis. Alors là, on pourrait dire, oui, on fait la petite enquête, mais c'est important parce que je sais que sinon je vais le lire beaucoup en commentaire. Et vous savez moi-même que Bill, c'est moi, Bill, c'est un Bill, c'est mon dieu, c'est mon influence la plus importante. J'enseigne à la Bill Evans Piano Academy. Évidemment qu'on a tous envie de dire, mais non, c'est un thème de Bill. Bon, il a dit, il a reconnu publiquement pendant ses concerts qu'il jouait une composition de Miles Davis. Pourquoi c'est important? Parce que Bill ne s'est jamais gratté de dire qu'il avait composé Blue and Green. Et là, il n'y a aucune ambiguïté. Il a dit, voilà, j'ai pas envie de faire d'histoire, je vais pas faire un procès à Miles parce que je lui dois. Il disait pas « je lui dois tout », mais « je lui dois tellement », mais c'est moi qui ai écrit « Blue and Green ». Voilà. Donc, ça n'aurait pas été logique de revendiquer la paternité de « Blue and Green », mais pas de « Nardis ». Voilà. Et puis enfin, alors ça c'est moi qui dis ça, c'est vrai qu'on a des témoignages maintenant, notamment je pense à Shorter, les témoignages de Wayne Shorter, quand il raconte les séances à l'époque du deuxième quintet de Miles, avec Herbie, Tony Williams, enfin Ron Carter, toute la clique. Et il raconte que quand Miles l'appelait pour des séances, il lui demandait d'amener ses compositions. Il y a des vidéos qui traînent sur les réseaux. Et donc, voilà. Et là, on a le témoignage de Shorter qui dit il a jamais cherché à s'approprier mes compositions. En tout cas, il les a jouées, mais il n'a pas co-signé ou il n'a pas signé à la place de Shorter. Donc, on a un portrait d'un Miles qui... Mon intuition, voilà, j'allais pour terminer, on a le portrait d'un Miles plutôt honnête, même si ceux qui s'intéressent à sa vie, bon, on peut mettre des bémols, on peut donner plein d'anecdotes personnelles. Moi, je prends ça, je prends surtout le témoignage de Bill, et puis voilà, par rapport à tout ce que j'ai dit, Mon intuition finale pour fermer ce dossier, enfin en tout cas cette histoire d'emprunt, de plagiat, je pense que l'histoire de Nardis, et ça nous permet aussi d'avancer un petit peu, c'est que c'est un morceau qui a été enregistré pour un album qui s'appelle Portrait of Cannonball, pour Cannonball Adderley, et Bill Evans est à la création de ce disque. Donc c'est le premier enregistrement de Nardis. David Evans donc est au piano dans cet enregistrement. Donc moi je pense que ce qui s'est passé, c'est que Miles a peut-être composé 50, 60, 80 ou peut-être 100%, mais peut-être ce qui s'est passé, c'est que Bill est venu un petit peu donner des contradictions ou des apports harmoniques, mélodiques. On ne saura pas. On est là, on n'était pas dans les, on n'a pas de bande, on n'a pas de témoignage de ça, on ne peut pas faire de code-part quoi. Mais ce serait assez étonnant, surtout quand on connaît la façon dont ils, ont fait après sur Kind of Blue, tout ça, parce que Kind of Blue, c'est 59. Bon, ce serait pas étonnant que Bill ait un petit peu donné son avis, qu'il lui ait peut-être donné des conseils, ou que simplement sa culture harmonique était déjà énorme à l'époque, ait pu influencer Miles Davis. Voilà cette longue introduction. Alors, Nardis, je vous laisse, je mettrai des liens éventuellement, mais sinon vous tapez sur YouTube Nardis, Miles Davis, Nardis, Bill Evans, vous allez avoir je sais pas combien de centaines, au moins de dizaines de versions. Allez écouter quelques versions, ça évitera que la chaîne se fasse striker, et puis surtout c'est plus intéressant que plutôt que de prendre ce temps-là, à ce moment-là, c'est plus intéressant que... Ah voilà, allez écouter les versions, en bref. Et donc, on a ce thème, alors... Je le fais une fois doucement. Hein. Voilà. Alors ici, ensuite, vous avez les fameuses, la descente de Bill. Voilà. Qui, alors dans le vieux rulebook, elle avait été chiffrée. C'est-à-dire qu'il nous fait un Si 13 qui descend à bémol 13, qui approche un Do majeur 7 dièse 11. Okay. Et puis la fin... Et là, on a mineur majeur. Voilà, Nardis, c'est ça. Je ne veux pas le jouer in extenso et vous faire un bel exposé, c'est pas le but de la vidéo. Allez, écoutez Bill, il le joue beaucoup mieux que moi. Alors, donc j'ai dit d'abord la forme ABA. La mélodie, on va faire la mélodie, l'harmonie et puis le rythme, c'est intéressant. C'est vrai, quand on joue, en général, on a des mises en place, on peut en parler tout de suite. Rythmiquement, c'est un peu, tout, entre guillemets, tout ce qui va nous intéresser. C'est on a ce papi. Voilà, on a cette mise en place. 1, 2, et là, 1, 2, et 3, et 4, et 1. Voilà. Ça, c'est la mise en place rythmique. Alors, la mélodie, maintenant. Donc, on a ce si mi, OK? Et puis ensuite, voilà. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? On se dit tout de suite, bah, quand on est en mi, ça, le tétracorde supérieur, c'est un tétracorde harmonique. Okay, c'est-à-dire qu'on connaît ça, par exemple, dans le mineur harmonique. On connaît ça aussi dans le majeur harmonique. Et puis, on y vient dans un instant avec le majeur double harmonique. Donc là, tout de suite, on se dit, quand on regarde ce thème, on a si, mi, 5, 1. On imagine qu'on est en mi quelque chose. Et puis ensuite, une sensible. Okay, donc on dit bien mi, c'est le centre tonal. On redescend, mais... Et là, on a cette fameuse seconde augmentée. Mi, ré, do, si. On se dit, ah, c'est de l'harmonique, c'est quelque chose harmonique. Ok, on avance, deux accords, le si est tenu, et puis enfin, ah, on a si, la, sol, mi, la, et puis, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ici, on ne comprend plus. On avait ici un tétracorde harmonique, donc ça veut dire qu'en bas, on devrait avoir du mineur harmonique ou éventuellement du majeur harmonique, mais là on entend à un moment un sol bécard, on entend si, la, sol, mi, ok, et puis la, alors on se dit, bah ça pourrait être du mineur harmonique. La mélodie, pour l'instant, si on en regarde, on a un si, un mi, un ré dièse, un do, on a un si, la, sol et mi. Pour l'instant, on se dit là, tout ce qu'on a là, ça évoque mi mineur harmonique. Sauf la fin où on a ce sol dièse et là on a un emprunt, on passe en majeur. Et ça, ce fragment, eh bien, on le trouve dans deux systèmes. On va le trouver dans le phrygien majeur. D'accord ? Le phrygien majeur qui vient de la mineur harmonique, où on va le trouver dans mi majeur double harmonique. Voilà, ça c'est pour l'analyse mélodique, pour les pistes pour l'instant. Alors, avant d'aller plus loin, ce que je vous propose, c'est on fait un point sur le système phrygien, parce qu'on comprend bien que peut-être qu'on comprend pas bien. Voilà, ça c'est petite introduction sur ce que intuitivement ce que nous dit la grille. On a parlé beaucoup d'harmonique, mais en réalité, ce qu'il faut bien voir, c'est que la couleur qui va le plus revenir dès qu'on va commencer à ajouter les accords, eh bien c'est la couleur phrygienne. Voilà. Ça, c'est la couleur qui est vraiment chevillée au corps de Nardis. Alors, pour bien faire, on va regarder les avatars du phrygien, les différentes formes historiques qu'on connaît du phrygien. Alors, le premier, on connaît le phrygien. Voilà, celui-là, c'est le troisième mode du système naturel. OK ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec ces modes qui sont issus de systèmes naturels, c'est que la plupart du temps, ils sont simplement utilisés comme des couleurs de passage, mais on a des cas de figure, et c'est un petit peu ça qui est difficile parfois d'un point de vue pédagogique, et c'est là où je vois bien, je le lis en commentaire, que les gens ont parfois du mal. J'explique la différence entre une gamme mère, un système, un mode, une échelle, et quand je parle d'un morceau qui est bâti autour du phrygien, on me dit « mais je comprends pas, tu m'as dit que le phrygien, c'était pas un système ». Alors c'est vrai, sauf dans certains cas particuliers, et Nardis en fait partie, où un morceau n'est plus basé, entre guillemets, sur une gamme mère, même si un mode vient d'une gamme mère, un mode vient d'un système, mais le morceau entier est basé autour d'un mode. Vous voyez ? On a ça dans la musique traditionnelle, énormément, et on a ça aussi dans Nardis. Parce qu'en général, vous avez plutôt des modes, des morceaux, des mélodies, des suites d'accords qui sont bâties autour d'un centre tonal, d'une tonalité, et vous avez simplement des cadences. Or là, on a vraiment l'idée d'un morceau qui est axé, qui est centré autour de la couleur phrygienne. Alors, j'ai dit, on a le phrygien. Celui historiquement qu'on connaît aussi très très bien, j'en ai parlé à un instant, c'est ce qu'on appelle le phrygien majeur. Alors, phrygien majeur, c'est-à-dire que c'est mi, fa, sol dièse, la, si, do, ré, mi. Alors, vous ne connaissez peut-être pas forcément l'appellation phrygien majeur, parce que ça, c'est une appellation qu'on utilise dans la méthode en harmonie, c'était le système de Bernard, et il y a une cohérence parce que phrygien Bécart 3, ou phrygien majeur, est en pendant d'un autre mode issu du majeur harmonique. Alors, je rentre pas dans les détails parce que ça, c'est le principe de l'écriture en miroir, c'est l'harmonie en miroir, c'est assez complexe, c'est très intéressant, mais c'est un peu le Graal théorique intellectuel. Il y a un charme, mais qui est un charme purement intellectuel. Là, on va rester dans la musique. Donc, vous ne connaissez pas forcément l'appellation phrygien Bécart 3 ou phrygien majeur parce que, surtout si vous êtes guitariste, vous appelez ce mode phrygien dominante. Voilà. Ce qui revient à la même chose, mais dire phrygien, la mi ré dièse, phrygien dominante. Alors, le problème, c'est que dire phrygien dominante, quand on fait l'appellation des nomenclatures modales, ça n'a pas tellement de sens parce que c'est presque une redondance au sens où dominante, ça veut dire le triton, et le triton est là avec la septième. Or, c'est beaucoup plus intéressant de spécifier l'émergence, la naturalisation de la tierce, c'est de dire il y a l'apparition d'une tierce majeure. Mais ce qu'on veut dire par phrygien dominante, c'est qu'en réalité, avec le sol dièse, on a l'apparition d'un triton. Et ce triton, eh bien, il nous emmène, il est associé à un accord 7, bémol 9, bémol 13, avec une quinte juste, hein, c'est vraiment sa signature, c'est-à-dire si je fais, voilà, je vais associer par exemple ça à un mi 7, avec en plus une bémol 9, une bémol 13, et une quinte juste, et ça irait par exemple vers un la mineur. Donc il a fonction, on l'associe à une fonction dominante. Voilà pourquoi l'appellation phrygien majeur. Mais c'est aussi le mode qu'on appelle l'andalou, ok, ou le phrygien espagnol, ou je l'ai dit le phrygien dominant, parce que précisément, il permet de retourner au majeur avec cet emprunt. Sachant, je ne l'ai pas précisé, j'ai un podcast hein, d'ailleurs sur le phrygien vers lequel je vous renvoie, que le degré caractéristique naturel du phrygien, ce qu'on appelle le DCN, eh bien, c'est la bémol 2 du mode, donc c'est le Fa. D'accord ? Donc dès qu'on entend, voilà, ça, entendre Fa, Mi, ça c'est la signature du phrygien. Ensuite, un autre mode qui est moins usité, peut-être que les jazzmen utilisent moins, c'est ce qu'on appelle le phrygien harmonique. pareil, un mode qui est beaucoup utilisé en musique traditionnelle, qu'on appelle aussi le napolitain. Et d'aucuns, alors je crois que les guitaristes appellent ça le napolitain mineur, parce qu'il y aurait le napolitain majeur et le napolitain mineur. Mais en gros, nous, quand on associe, quand on étudie les tétracordes, eh ben, c'est un phrygien harmonique. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que la seule différence avec le mineur harmonique, c'est que dans le mineur harmonique, il y a un fa dièse, et dans le phrygien harmonique, il y a un fa bécard. Vous voyez ? Donc, quand on n'entend que ça, ce que j'expliquais tout à l'heure avec la mélodie, on ne peut pas savoir, comme la mélodie est lacunaire, on a que 6 notes sur 7, on ne peut pas savoir si c'est du mineur harmonique ou si c'est du phrygien harmonique. Voilà. Le mineur harmonique, ça, on connaît, et ça, pour le coup, c'est vraiment l'évolution de la gamme relative de sol majeur. Voilà pourquoi ça a du sens de mettre un fa dièse si on le pense comme ça. On a sol majeur, on a mi mineur naturel qui devient mi mineur harmonique. Harmonique, c'est parce que ça permet d'ajouter une sensible et donc de faire des cadences. C'est ça, des explications historiques. Et puis le dernier, celui-là, pareil, qui est moins joué, moins connu, moins manipulé par les musiciens. De plus en plus, mais voilà, il était un peu mystérieux pendant très longtemps. Moi, quand j'étais gamin, j'en entendais pas parler. C'est le double harmonique ou le majeur double harmonique. Et là, c'est encore plus simple, entre guillemets, on va accoler deux tétracordes harmoniques. Voilà l'idée, vous voyez ? Et donc là, de la même façon, ça nous permet ici de rendre compte de ce mouvement. Voilà. Alors, comme j'expliquais, ce mouvement, il peut être... Non, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il est expliqué par soit le phrygien majeur, soit le double harmonique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà pour la mélodie et les 5 systèmes dont on va avoir besoin pour faire une étude complète. Vous voyez, c'est riche, hein ? Les accords maintenant, parce que ces systèmes vont générer des accords. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on va avoir un mi mineur. Alors vous avez vu, j'ai mis mi mineur 7. Pourquoi je joue le ré ? C'est vrai qu'en général, j'ai dit qu'on évite de jouer les septièmes sur les accords de tonique, fût-il majeur ou mineur. Mais c'est vrai que là, c'est un cas particulier parce que c'est une cadence phrygienne. J'y viens dans un instant. Et en plus de ça, on a Bill qui joue très souvent le Rebecca. On entend, déjà avec Scott Lafaro, on entend ce mouvement. On a les deux septièmes parallèles. Parce que Bill, c'était aussi le spécialiste des accords mineurs parallèles. C'est autre chose. Mais on a ces septièmes parallèles. C'est une signature sonore, acoustique, enfin, culturelle, esthétique qu'on a chez Bill qui est très très forte. Donc, mi mineur ou mi mineur 7. Alors, ce mi mineur 7, on le trouve où ? Eh bien, on le trouve dans le système phrygien. Et vous allez voir qu'on va pouvoir trouver la quasi-totalité des accords dans le système phrygien. Premier accord mi mineur ou mi mineur 7. Alors si je dis que mi mineur, si j'enlève la septième, là vous avez, il est compris dans le système phrygien, dans le phrygien harmonique et même dans le mineur harmonique. Okay ? Sachant que dans le phrygien harmonique, dans le napolitain, il sera mineur majeur 7 et aussi dans le mineur harmonique. Okay ? Par contre, pour avoir le mineur 7, ça, il faut que ce soit du phrygien. Okay ? Ensuite, on avance, on a fa majeur. Alors, le fa majeur, c'est pareil, on l'a dans 3 systèmes, on va le trouver dans 3 modes, dans le phrygien harmonique et le double harmonique. Mais restons simples, allons le moins loin possible, il est encore compris dans le système, dans le mode phrygien. Donc, pour l'instant, le phrygien nous permet de rendre compte du mi mineur et du fa. Et puis là, il y a deux possibilités. De temps en temps, y compris dans l'enregistrement original, on entend le mi majeur qui passe, mais il est joué aussi ce thème en allant directement du fa majeur au 6-7. Alors, je laisse le mi majeur parce que de toute façon, on va l'analyser un petit peu plus loin. Le 6-7, si on regarde les accords, les tétrades qui sont issus du mode phrygien, si vous allez au 5e degré, eh bien, le 5e degré, c'est un si mineur 7 bémol 5. Si je vais dans le phrygien harmonique, dans le napolitain, le 5e degré, c'est un 6-7 bémol 5, toujours pas, j'ai pas de quinte, j'ai pas de 6-7, si je veux vraiment jouer la tétrade telle qu'elle est écrite. Hein. Pareil pour le double harmonique. Et en fait, il n'y a qu'un seul système, il n'y a qu'un seul mode dans lequel il va apparaître, et bien c'est dans le mineur harmonique. Le 6-7 est le 5e mode du mineur harmonique. Donc là, je suis obligé, en plus du phrygien, d'avoir recours au mineur harmonique pour rendre compte de l'apparition de ce 6-7. C'est un emprunt au phrygien harmonique. Oui, je vous renvoie vers la vidéo sur les emprunts. J'avance Do majeur. Do majeur est compris dans presque tous les systèmes. Pour le double harmonique, il est avec une quinte augmentée, mais on s'en fiche. Donc pareil, j'ai besoin que du phrygien pour expliquer l'origine du Do majeur 7. Le La mineur 7, de la même façon, 4e degré du phrygien. Et le Fa majeur 7, pareil, est le bémol 2 du mode phrygien. Qui nous permet de revenir au mi majeur. Ah, par contre, le mi majeur, à lui, il n'appartient pas au phrygien. Parce que le phrygien, c'est un mode d'essence mineure, il n'y a pas de sol dièse. Alors, où est-ce qu'on a un mi majeur? Eh bien, le mi majeur, on l'a précisément dans le système majeur double harmonique, ce qu'on appelle aussi le double harmonique, et le mode c'est ionien bémol 2, bémol 6. Bon, ça c'est un peu pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans les modes. Mais le système, c'est le système double harmonique ou majeur double harmonique. Donc ça veut dire que là, on est obligé d'avoir recours à un troisième système, à un troisième mode, pour pouvoir faire l'analyse de cet accord. Donc on a besoin du phrygien, on a besoin du mineur harmonique pour le 6-7, et puis pour le mi majeur, on a besoin du majeur double harmonique. Il n'y a que là où on va trouver ce mi majeur 7 qui redescend vers un mi mineur ou mi mineur 7. Donc vous voyez, à chaque fois, ce sont des emprunts. Hein. On a mi comme tonique modale et on va faire mi phrygien, mi éolien bécart 7, parce que le premier mode du système mineur harmonique, c'est éolien 7e majeur, éolien bécart 7. Donc mi phrygien, mi éolien bécart 7, et puis si on retourne au majeur double harmonique, mi ionien, bémol 2, bémol 6. Alors, sans les noms barbares, je sais que je vais en perdre plus d'un là, c'est simplement phrygien, ça tout le monde connaît, mineur harmonique, majeur double harmonique. Voilà. Avec, on a quand même besoin de trois systèmes, de trois modes, de trois emprunts pour rendre compte du thème. Et puis, ce qu'il faut dire quand même qui est très intéressant, et ça c'est aussi un autre concept qui est assez riche et qui était, est-ce que c'était une nouveauté ou originale, je ne sais pas, c'est le principe de la cadence phrygienne. Alors, cadence phrygienne en classique, déjà chez Mozart, on veut, tu en vois là, on en a plein. C'est comme ça qu'on explique l'origine de l'accord de sixte augmenté. Je vous renvoie la vidéo que nous avons faite avec Cédric, voilà, pour l'accord de sixte augmenté, okay, qui nous emmènerait à la mineure. Là, en l'occurrence, la cadence phrygienne, c'est qu'on va vraiment avoir la définition d'un centre tonal, d'un centre modal. Okay. Alors j'ai dit centre tonal, en fait on devrait dire centre modotonal, c'est-à-dire qu'on va définir mi mineur comme centre, okay, comme point de gravité, c'est là que tout est attiré par mi mineur, mais on n'y va pas à ce mi mineur par les cadences traditionnelles, c'est-à-dire 6-7 qui va à mi mineur, on n'y va pas par la cadence plagale, la mineur qui va à mi mineur, pardon, on n'y va pas par des renversements. Mais c'est encore ça, si je joue ré dièse diminué 7, en réalité l'accord de 7e de sensible, je suis encore en train de faire un 6-7 quelque chose, bémol 9. Non, là on y va par, alors évidemment beaucoup de parallélisme, si on veut éviter ça, voilà, on pourra faire quelque chose comme ça. Le truc c'est que nous les parallélismes sont beaucoup plus tolérés dans le jazz, donc ça nous posera moins de problèmes, on va entendre des octaves, des quintes parallèles, ça c'est pas du tout fautif dans notre style, ok, contrairement au classique. Mais l'idée, c'est qu'on va avoir l'enchaînement de ce bémol 2 majeur qui va descendre au premier degré. Alors si on veut, si vraiment ça pique trop, on fait des mouvements contraires. Mais c'est l'idée d'avoir ce fa majeur, mi mineur. Et on a quand même l'impression, une fois qu'on a fait ça, d'être arrivé sur un 1. Vous voyez ? Et ça fonctionne en réalité comme si le bémol 2 était ce qu'on appelle la sus tonique. C'est comme si c'était devenu une nouvelle sensible. C'est ça qui est un peu étrange, c'est qu'au même titre qu'on a le ré dièse qui pousse au mi, eh bien on pourrait avoir le fa qui, par un phénomène d'attraction, nous aimante, nous tire vers le mi mineur. Et c'est ce phénomène d'instabilité, voilà, qui crée enfin ce phénomène de repos sur le mi. Donc c'est une nouvelle forme d'approcher un centre tonal, donc centre tonal et modal, centre modotonal, mais là on entend vraiment le ton de mi mineur, quelque chose en mi mineur, et ça c'est fait par ce qu'on appelle une cadence modale. Okay, c'est pas une cadence traditionnelle, c'est pas une cadence parfaite, c'est pas une cadence, c'est pas une demi-cadence, c'est pas une cadence, rompue, c'est pas une cadence plagale, non, c'est une cadence modale. Alors il y en a plein des cadences modales, on a fait une vidéo encore une fois avec Cédric, vous en avez chez Ravel dans le jazz, vous avez la bémol 7-7 qui va à 1, il y a plein de façons. Ça aussi, tiens, voilà une cadence jazz, on appelle la bémol 7-7, la backdoor. Keynes. Voilà. Tout ça, ce sont des façons d'affirmer, d'autres façons d'affirmer un centre tonal. Un mot quand même d'analyse fonctionnelle avant de terminer l'analyse de ce premier A et puis de continuer vers le pont. On a bien mi mineur, donc on a dit c'est un premier degré. Voilà. Fa majeur, bémol 2 majeur 7. D'accord. Si 7 qui est le cinquième degré. Do majeur 7, bémol 6 majeur 7. La mineur 7, c'est le 4 mineur 7. Fa majeur 7, encore bémol 2 majeur 7. Et puis mi majeur 7, 1 majeur 7, qui continue vers 1 mineur 7. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que on a dit tout à l'heure qu'on pouvait s'appuyer sur le phrygien pour extraire la quasi-totalité des accords à l'exception du 6-7. Alors c'est vrai, ça reste pertinent. Maintenant, on voit bien que si on ajoute la mélodie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, si on prend ce par exemple, si on prend le Ré dièse Do, ou si on prend le Fa dièse du 6-7, évidemment, on est obligé d'utiliser un ou deux autres systèmes. On va trouver Ré dièse dans le phrygien harmonique, le napolitain, et on va trouver le Fa dièse et le Ré dièse, lui, on va les trouver. On va les trouver dans le mineur harmonique. Maintenant, ce qui est intéressant quand même du point de vue des systèmes, c'est que la mélodie nous fait fortement penser à un trafic qui est utilisé dans le majeur double harmonique. On a le... Et ça, sur le deuxième degré, sur le bémol 2 majeur 7. Une petite précision quand même à propos des degrés et des fonctions de ces accords. Vous avez vu que je chiffre bémol 2 majeur 7, bémol 2 7 et bémol 6 majeur 7. Alors que normalement, si on était en phrygien, eh bien comme ces degrés sont diatoniques, on devrait simplement chiffrer 2 majeur 7, 2 7, parce qu'en réalité, on ne doit altérer que les degrés qui ne sont pas diatoniques. Mais étant donné qu'on a un Fa dièse qui est à la clé dans la partition et qu'on passe dans plein de systèmes, j'ai trouvé qu'il était plus évident, plus pédagogique de préciser, de chiffrer tous les degrés par rapport à la fondamentale. Donc, toutes les altérations sont écrites par rapport au ton de mi mineur. Ce qu'il faut dire quand même, ce qui est intéressant, c'est que dans l'analyse de Nardis, je trouve qu'il y a des éléments qui, outre le fait que j'ai dit, ça ressemble à rien, c'est complètement atypique, on entend des mouvements qu'on entend très peu ailleurs, ou qu'on entend, si on fouillait, peut-être qu'on trouverait d'autres exemples, mais bon, on n'est quand même pas habitué à entendre ça dans les standards. Pour autant, ce A est traversé par des procédés par des cadences ou des degrés qui, du point de vue inconsciemment dans notre culture musicale, nous rendent ces progressions, enfin en tout cas nous rend cette progression familière. Ça c'est intéressant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, on entend mi mineur 7 et puis on monte comme ça au Fa majeur 7. Mais ça en fait c'est aussi ce qu'on appelle le degré napolitain. Monter sur le bémol 2 majeur 7 en mineur, ça n'est rien d'autre que faire le bémol 2 majeur. Voilà. Donc là, on va dire cadence phrygienne parce qu'on entend ce bémol 2, 1 ou 1 bémol 2. C'est comme si on fait sol 7, do, ou si on fait do, sol 7, 5, 1 ou 1, 5. Ça participe d'une cadence parfaite. Là, de la même façon, ça évoque une cadence phrygienne, mais aussi, il faut bien dire que le bémol do majeur 7, depuis la musique baroque, on est habitué à l'entendre. Donc c'est nouveau en jazz, mais en même temps, on connaît. De la même façon, on a ce 6-7... qui va au Do majeur 7, ça on connaît très bien, c'est une cadence rompue. C'est-à-dire que normalement le 6-7 est censé retourner au mi mineur. On pourrait avoir... Voilà, on pourrait avoir ça, mais cadence évitée, cadence rompue, on monte vers le bémol 6 majeur 7. Quatrième degré, bon bah ça on a vu, on le trouve dans au moins deux systèmes, enfin dans plein de systèmes. Ça c'est le 4 mineur, et de la même façon, on ne redescend pas. On ne fait pas 4 mineurs, 1 mineur, ce qui serait une plagale mineure. Là, on passe par le bémol 2 majeur 7, cadence phrygienne. Sauf que, et là encore, une évocation d'un procédé historique qu'on connaît depuis le baroque et qui nous parle inconsciemment, même si les gens ne peuvent pas l'expliquer, on se dit « Ah oui, mais j'ai déjà entendu ça ». Eh bien, c'est la naturalisation de la tierce en mineur, ce qu'on appelle la tierce picarde. C'est aussi comme ça qu'on peut imaginer le fait d'avoir intercalé ce mi majeur 7 avant le mi mineur. C'est ça qui est intéressant. Donc on a la mineure, on devrait aller à mi mineur. La mineure, on met le bémol 2 majeur 7, cadence phrygienne, pour aller au 1 mineur. Mais on fait 4 mineur, bémol 2 majeur 7, tierce picarde, et enfin, voilà. Et on fait tierce majeur, tierce mineur. Ce qui, ça ne se fait pas beaucoup en baroque. C'est vrai que normalement, quand on entend la tierce picarde, on termine en majeur et on reste en majeur. Vous avez ça chez Bach et plein d'autres. Et alors, ce qui est intéressant aussi du point de vue des systèmes, j'ai dit qu'on évoque beaucoup le majeur double harmonique. Et on a aussi, dans cette cadence phrygienne, si je fais Fa majeur 7, Mi mineur 7, eh bien, j'ai vraiment toutes les notes d'un Mi phrygien. Donc là, c'est vraiment la pure cadence phrygienne. Mais si je fais Fa majeur 7 qui va à Mi majeur 7, quel est le système qui est sous-entendu? Je refais Fa majeur 7 qui descend à Mi majeur 7, et bien je vais superposer ces deux tétrades, Mi, Fa, Sol dièse, La, Si, Do, Ré dièse, Mi, qu'est-ce que j'obtiens? Mi majeur, double harmonique. Et puis le pont, ça va aller beaucoup plus vite, on a... Ok. Donc on a la mineur, fa majeur, des accords qu'on a déjà vus. Donc ça, il n'y a pas de piège. Et de la même façon, c'est-à-dire qu'on peut encore tirer ça du phrygien, de la même façon... Si, do, mi, sol, si. Ça, on regarde. Est-ce que tout ça est contenu dans le phrygien? Eh bien oui, ma foi. Donc là, il n'y a pas de surprise. Et de la même façon... Et là, on a Ré mineur 7, Sol 7, Sol 13 d'ailleurs, qui va à Do majeur, Fa majeur, et on retourne au Mi mineur. Alors, ce qui est intéressant à la fin du pont, c'est qu'on a un 2-5. On a un 2-5, donc on a une modulation passagère en Do majeur 7, et donc on entend 2, 5, 1, 4. Sauf que ce 4, ce qui est très bien écrit, c'est qu'en réalité, c'est aussi le bémol 2 de mi mineur. Donc, c'est ce qu'on appelle les accords pivots. C'est à la fois le quatrième degré de Do majeur, mais c'est aussi le bémol 2 de mi mineur phrygien. Donc, ça permet de faire une transition entre le pont et le retour au dernier A en toute transparence. C'est très bien vu. Et ça permet... Alors, pourquoi moduler en Do majeur, ça fonctionne très, très bien? Eh bien, parce que, en réalité, depuis le début, on entend phrygien, phrygien, phrygien. Or, si on entend phrygien quelque chose, du phrygien harmonique, du phrygien double harmonique, mais on voit bien qu'on a ce fragment modal ici. Or, le phrygien est un mode issu, est un mode qui pointe vers son système de référence, son système naturel, qui est le système naturel. Or, pour le mi-phrygien, qu'est la gamme de référence? Eh bien, c'est Do. Voilà, mi-phrygien n'est qu'un... une translation des notes de Do majeur, de Do naturel. Donc en fait, c'est complètement normal, c'est vraiment attendu, et c'est sans peine, ça pique pas de faire entendre Do majeur. On va dire, oui, en même temps, c'est comme si on faisait un 2-5 pour approcher le sixième degré du phrygien, mais c'est encore plus simple que ça, on retourne vers la gamme mère, quoi. Voilà. C'est comme quand on fait des morceaux, on est en relatif mineur, comme Autumn Leaves, on oscille entre si bémol majeur, sol mineur, entre le majeur et le relatif mineur. On est en toute transparence pour des modulations qui n'en sont presque pas. On se contente simplement de passer d'un relatif à l'autre. Voilà, on pourrait dire que Do majeur est le relatif du mode phrygien. C'est sa gamme mère relative. Quelques mots avant de vous laisser partir. Nous serons au Sunside le 11 et 12 septembre. Donc, comme d'habitude, j'aurai le plaisir de vous y retrouver. Je serai en trio avec Marc et Gauthier. Vous pouvez, comme d'habitude, liker, commentez, vous abonnez, et je vous dis à très bientôt, et vive Miles !